Bonjour à tous. Tokyo à l'heure olympique, avec une année de retard, les Jeux olympiques commencent enfin, mais en mode Covid au Japon. Nous serons sur place pour suivre la cérémonie d'ouverture dès le début de ce journal. Le pass sanitaire, deuxième étape, après l'adoption à l'Assemblée nationale cette nuit, le texte arrive au Sénat avec de nouvelles modifications en vue, nous ferons le point. L'épidémie de Covid et un jour peut-être le retour à la vie normale, pas avant 2022, voire 2023, nous dira le professeur Jean-François Delfrécy. Ici. Nous parlerons aussi menaces terroristes. Le gouvernement invite les préfets à la vigilance pour cet été. Et puis, en fin d'édition, un remède à l'un des maux des grandes vacances, de la crème pour éviter, les frottements du short ou de la jupe entre vos cuisses.
France Inter.
Une année de retard, des galères en pagaille, une pandémie en bonus, mais ça y est, nous y sommes. Top départ officiel des Jeux Olympiques de Tokyo. La cérémonie d'ouverture vient tout juste de débuter au Japon. Près de 4 heures de spectacle que vous allez vivre en direct pour France Inter. Jérôme Val, bonjour Jérôme.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
On entend déjà bien la musique derrière vous. Dites-nous, quelle est l'ambiance dans ce stade quasiment vide à cause du contexte sanitaire ?
Stade vide et qui à 20h00 heure d'ici a été plongé dans le noir pour le début de cette cérémonie d'ouverture. Mais vous l'avez dit, il manque peut-être l'essentiel, la ferveur dans les tribunes. Les sièges sont totalement vides. Il y a juste quelques officiels qui sont arrivés, moins de 1000 personnes, et les journalistes internationaux qui sont bien nombreux dans cette tribune de presse. La cérémonie va démarrer dans les prochaines secondes avec déjà l'entrée des premiers figurants sur cette énorme piste bâchée ici dans ce stade olympique, vraiment magnifique stade entièrement neuf. Et c'est un spectacle qui, vous l'avez dit, va durer 4 heures pour lancer officiellement ces 29e Jeux Olympiques et que la fête commence enfin. On met un petit peu entre parenthèses tous les soucis de cette candidature et que les Japonais soient un peu associés à ce moment de fête ici à Tokyo.
Jérôme Val, hein, qu'on a du mal à entendre avec cette ambiance déjà dans le stade à Tokyo pour France Inter. Et donc pendant cette cérémonie, dans quelques heures, 80 athlètes français vont défiler sur une délégation tricolore qui comprend 380 sportifs. Parmi ces athlètes tricolores, la handballeuse Alison Pinault, 32 ans, elle a particulièrement hâte malgré le contexte.
C'est une énergie particulière, vraiment, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'excitation. C'est vraiment un moment spécial dont on se souvient très bien. Et puis, il y a toutes ces émotions de se dire qu'on est regardé dans le monde entier, qu'il y a tous ces gens qui nous applaudissent. Voilà, c'est aussi beaucoup d'humilité de se rendre compte qu'on participe à un événement qui est plus grand que soi aussi. Et puis, tous ces athlètes, et puis tout ce côté aussi de voir défiler tous les pays du monde, quoi. Voilà, moi j'ai envie de prendre le côté positif, même s'il n'y a pas de public.
La handballeuse internationale française Alison Pinault. Et on retourne tout de suite à Tokyo, retrouver Yannick Agnel, ancien champion de natation, double médaille d'or à Londres, c'était au JO 2012, désormais consultant pour Radio France. Bonjour Yannick Agnel.
Bonjour, bonjour.
Alors paradoxalement, vous n'avez jamais vécu cette magie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pourtant, ça fait un peu partie d'un rite de passage au JO.
C'est sous l'ouverture et puis la passion du sport et la ferveur sportive qui va commencer pendant ces 15 jours de Jeux Olympiques et qui se prolongera bien après, puisqu'il y aura les Jeux Paralympiques un petit peu plus tard dans le mois d'août. Donc effectivement, c'est un passage important. Et puis effectivement, comme vous le disiez, en tant que nageur, c'était compliqué puisque la natation commence le lendemain matin à peine de cette cérémonie d'ouverture. Donc difficile de garder de l'influx nerveux quand vous avez une cérémonie qui va durer entre 3 et 4 heures.
Oui, certains athlètes ont d'ailleurs décidé de renoncer à assister à cette cérémonie justement parce qu'ils ont des épreuves à préparer. C'est assez long, fastidieux, ces longues heures de spectacle. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux, le plaisir de cette magie et les épreuves qui arrivent ?
Tout simplement, alors pour les nageurs, c'est en participant à la cérémonie de clôture que vous appréciez évidemment bien plus, parce que vous avez souvent des médailles dans votre besace, donc c'est beaucoup plus sympa, moins stressant. Cela dit, vous pouvez le vivre comme tout le monde, depuis le village olympique, sur votre canapé, dans votre lit, avec l'écran en face de vous, et ce show qui a démarré ici, hein. Il fait déjà nuit noire à Tokyo, et le show de la cérémonie d'ouverture vient de commencer, et voilà, on va suivre ça avec impatience. C'est quand même un beau moment pour les sportives et les sportifs de ce défilé, parce que c'est un moment qui vient couronner parfois des années entières
de préparation,
de sacrifice. Voilà, tout à fait.
Je vous remercie, Yannick Agnel, et donc profitez bien, hein, de cette cérémonie d'ouverture à Tokyo. Ancien champion de natation, consultant Radio France, merci d'avoir été en direct avec nous sur France Inter. Dans les tribunes pour assister à cette cérémonie d'ouverture, seul 15 chefs d'État, dont le président Emmanuel Macron, venu représenter la France, prochain pays hôte des JO en 2024. Et pendant ce temps, à Paris, future ville hôte, on suit l'ouverture des festivités sur un écran géant installé au Trocadéro, près de la Tour Eiffel. Alexandre Berthaud y a rencontré France, motivée malgré le soleil et la chaleur de la ville de Paris.
Aujourd'hui, je suis là plutôt que de le regarder à la télé, parce que j'avais envie de voir comment ça se passait. Donc voilà, je suis là pour voir ce que ça donne et pour profiter de mon moment. Je m'attendais à plus de monde. Je sais qu'autour de moi, j'en ai un petit peu parlé. Pas tout le monde était au courant de cet événement. Mais pour le monde qu'il y a, tout le monde a l'air super content d'être là. Je pense que c'est un moment de ferveur nationale, un petit peu comme la Coupe du Monde. Si ça devait évoquer quelque chose pour moi, je dirais c'est l'inclusion. Avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, avec toute cette unité de tous les pays, de toutes les cultures tout simplement, je pense que c'est ça vraiment qui définit les JO pour moi, et c'est ce qu'il y a de plus beau dans n'importe quel événement et dans le sport particulièrement.
Voilà, France qui suit cette cérémonie d'ouverture des JO au Trocadéro à Paris, au micro France Inter d'Alexandre Berthaud. Nous retournerons à Tokyo, au Japon, pour revivre cette cérémonie en fin de journal. Ça aura duré toute la nuit dernière.
Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 231, exprimé 203, majorité 102 pour 117 contre 86. Le texte est donc adopté en première lecture.
Après douloureux débat et l'examen de 1200 amendements, les députés ont finalement adopté aux aurores ce matin le nouveau projet de loi anti-Covid. Projet qui prévoit notamment, s'il faut le rappeler, l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. Le texte quitte donc le Palais Bourbon, quasi comme il y est arrivé. Seule modification notable, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour rentrer à l'hôpital ou dans les EHPAD, contrairement à ce que souhaitait le gouvernement. Et après l'Assemblée nationale, le processus législatif se poursuit aujourd'hui au Sénat, avec de nouveaux amendements à étudier, Élodie Forêt.
La vaccination obligatoire pour tous plutôt que le pass sanitaire généralisé, c'est ce que proposent, à l'instar des députés, les sénateurs socialistes. Bernard Jomier, apparenté PS.
On fait face tous ensemble à la quatrième vague, et faire face tous ensemble à la quatrième vague, c'est avoir un dispositif qui rassemble tout le monde et qui oppose pas les uns aux autres. La logique dans laquelle, entre le gouvernement avec un pass sanitaire étendu, c'est une logique qui divise les Français, qui est inapplicable et qui ne produira vraiment rien de bon pour la lutte contre l'épidémie.
Mais au Sénat comme à l'Assemblée, les socialistes vont se heurter à l'intransigeance du gouvernement, soutenu ici par la majorité de droite et du centre, qui ne s'oppose pas au texte mais compte demander des assouplissements sur les sanctions notamment, indique le patron des centristes Hervé Marseille.
On peut fermer un établissement, on n'est pas obligé de coller des amendes qui sont particulièrement excessives, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous ne voulons pas d'une vaccination qui soit punitive, mais essayer d'aller davantage vers quelque chose qui permettrait d'appliquer avec plus de discernement les mesures prévues.
La question des sanctions et des délais soulevés par les sénateurs, comment ne pas pénaliser ceux qui ont reçu leur première dose au lendemain de l'allocution du président. La droite espère aussi convaincre le gouvernement d'exempter de passe les terrasses des cafés et des restaurants.
Élodie Forêt du service politique de France Inter. Et après le Sénat, place à la commission mixte paritaire ce week-end en vue d'une adoption définitive de la loi dimanche ou lundi. Ce pass sanitaire n'est donc pas encore inscrit dans la loi, mais il est en vigueur depuis mercredi, obligatoire pour accéder aux lieux de culture et de loisirs. Et du côté des professionnels, certains craquent déjà, trop difficile à mettre en œuvre. Exemple, chez Gigafit, une salle de fitness à Coquelles dans le Pas-de-Calais, la propriétaire Martine Bossard a décidé de réduire sa jauge à 49 personnes pour ne pas avoir à effectuer les contrôles sanitaires obligatoires à partir de 50 personnes. Et visiblement, cette gérante n'est pas la seule à jeter l'éponge.
Beaucoup sont revenus en arrière au bout d'une journée, assaillis de demandes de résiliation, de menaces d'opposition au prélèvement, des conflits entre abonnés, entre les anti-vaccins et les pro-vaccins. C'est intenable parce qu'on va se faire décimer en clientèle, parce que plein en plus profitent de cet argument pour essayer de résilier. C'est pas un motif de résiliation d'après les ministères, mais c'est un motif de conflit et de perte d'abonnés. On fait plus d'abonnements en plus. Et même chez les fitness parks qui avaient pris une politique de pro-pass sanitaire, j'ai plein de confrères qui reviennent petit à petit aux 49 en attendant parce que c'est trop précipité. Et il y a même des clubs où il y a vraiment des menaces de bagarre dans les clubs entre adhérents. Donc c'est très très compliqué.
Des propos recueillis par Odile Senelard de France Bleu Nord. Dans ce contexte, alors que la quatrième vague de coronavirus pointe le bout de son nez avec 22 000 nouveaux cas quotidiens, un record depuis le début du mois de mai, dans ce contexte, on n'ose plus vraiment imaginer quand nos vies redeviendront plus normales. À en croire le président du Conseil scientifique, en tout cas, il va falloir continuer à patienter. Jean-François Delfrécy, invité de BFM TV ce matin.
Le retour à la normale, c'est pas maintenant. C'est peut-être 2022, 2023.
Vous n'êtes pas sûr que ce soit en 2022 ?
Je ne suis pas sûr que ce soit en 2022. Nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver. Et puis à un moment donné, ce virus, qui a des capacités de mutation qui sont quand même relativement limitées, eh bien soit il va aller vers un virus qui va devenir beaucoup plus bénin, et puis on va le gérer parce qu'on aura, dans les pays riches, plus de 90% des populations vaccinées, plus les gens qui ont été déjà infectés. Mais on a en face de nous le reste du monde qui sera très peu vacciné. Dans ce début de vacances, je sais bien, et je suis souvent celui qui apporte plutôt la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Non, j'ai connu déjà des pathologies très lourdes. Je pense que nous gagnerons, mais je pense en effet qu'on va avoir probablement un nouveau variant et qu'on est parti encore... Oui, on est rentré dans quelque chose en longueur.
Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, qui insiste sur le respect des gestes barrières comme le port du masque, impératif selon lui dans les lieux fréquentés cet été. Il estime aussi dangereux de fréquenter les boîtes de nuit, accessibles avec présentation du pass sanitaire, on le rappelle. Deux nouveaux foyers de contamination ont d'ailleurs été identifiés dans des discothèques dans l'est de la France, avec plusieurs dizaines de personnes touchées dans les Vosges et dans le Doubs. Et puis au chapitre épidémie, le footballeur français Karim Benzema a été dépisté positif au Covid, annonce de son club, le Real Madrid, sans plus de précision. Pendant ce temps, en Israël aussi, le variant Delta continue de gagner du terrain. Près de 1300 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Le pass sanitaire, qui était entré en vigueur une première fois puis abandonné début juin, va faire son retour la semaine prochaine. Mais en attendant, c'est une étude publiée par le ministère israélien de la Santé. Une étude sur l'efficacité du vaccin qui inquiète la population locale. La correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
Commençons par la mauvaise nouvelle. Selon cette étude, le vaccin Pfizer face au variant Delta n'est plus efficace qu'à 39% contre l'infection, alors que l'on parlait au départ de 93%. Plus rassurante cette autre statistique, le vaccin demeure très efficace pour éviter les formes graves du Covid-19, plus de 91%. Ces chiffres reposent sur une analyse des cas de contamination en Israël du 20 juin au 17 juillet. Autre élément à retenir, les statistiques semblent également décrire une protection qui s'affaiblit au fil des mois après la vaccination. L'étude, il faut le préciser, a été critiquée par plusieurs spécialistes qui pensent que les données ont été mal interprétées. Selon le quotidien Haaretz, les contrôles ont surtout été effectués dans des foyers de contamination et auprès d'une population âgée souffrant de comorbidité. Jérusalem, Michel-Paul RFI, pour France Inter.
Et comme si la crise sanitaire ne suffisait pas à plomber nos grandes vacances. Voilà que la menace terroriste s'invite dans cet été 2021 déjà bien terne. Le ministère de l'Intérieur appelle dans une note les préfets à maintenir de hauts niveaux de vigilance dans leur territoire en juillet et en août. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Cette injonction du gouvernement fait suite à la diffusion d'une vidéo sur Internet, vidéo dans laquelle la France et ses dirigeants sont clairement visés.
Oui, une vidéo mise en ligne la semaine dernière. Dans sa note, le ministère souligne son potentiel de diffusion important et le fait que ces images risquent de stimuler la menace endogène. Autrement dit, inciter des personnes qui vivent en France à passer d'elles-mêmes à l'acte sans attendre les ordres directs d'une organisation terroriste. Tout au long des 40 minutes de film, une voix off présente la France comme menant une croisade contre l'islam, salue l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Emmanuel Macron apparaît aussi régulièrement, notamment à travers des extraits de son discours contre le séparatisme. Le ministère de l'Intérieur souligne toujours dans sa note que cette diffusion intervient alors que le procès des attentats du 13 novembre doit s'ouvrir en septembre. Or, l'an dernier, 3 attaques ont eu lieu en France dans les semaines qui ont suivi le début du procès des personnes soupçonnées d'avoir participé à aux attentats de janvier 2015, ce qui laisse penser là aussi qu'il y a un risque accru. Le parquet national antiterroriste a quant à lui décidé d'ouvrir une enquête préliminaire après la publication de cette vidéo. Enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels et provocation à des actes de terrorisme par un service de communication en ligne.
Merci Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. On a appris ce matin le décès de Jean-Yves Lafesse, l'humoriste, notamment connu pour ses canulars téléphoniques. Il avait 64 ans et souffrait de la maladie de Charcot. Se dirige-t-on vers un arrêt de la centrale nucléaire de Taishan au sud de la Chine, la seule au monde utilisant la technologie EPR en fonctionnement? La question se pose après un incident et les révélations de CNN sur des dysfonctionnements suspectés. Et elle se pose cette question d'autant plus qu'EDF, qui exploite la centrale, apporte désormais son grain de sable. Le géant français assure que si l'incident s'était produit en France, il aurait choisi, lui, d'arrêter le réacteur. Mais là, forcément, ça se passe en Chine. Alors, Delphine Simon, EDF laisse en quelque sorte les Chinois gérer.
Oui, si ça ne dépendait que d'EDF, le réacteur numéro 1 de Taishan aurait été mis à l'arrêt pour identifier le problème et le régler. En Chine, cette décision appartient à l'exploitant chinois et l'arrêt n'est pas programmé. Il est vrai que l'on reste sous les seuils de sécurité fixés à Taishan, des seuils qui ne sont pas les mêmes qu'en France, mais ils sont conformes aux pratiques internationales, ajoute EDF. L'électricien confirme des fuites sur la première des 3 barrières chargées de contenir la radioactivité du réacteur. Lorsque ce phénomène survient, la radioactivité des crayons de combustible franchit les gaines et contamine l'eau du circuit primaire. Ce phénomène s'est déjà produit en France. Il est assez rare, indique l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, mais il ne s'agit pas d'un accident nucléaire. À ce stade, pas de risque de rejet dans l'environnement. EDF réfute dans un communiqué le terme même d'incident. Impossible cependant de savoir à ce stade ce qui provoque le défaut d'étanchéité des crayons de combustible, des équipements fournis par Framatome.
Les précisions de Delphine Simon pour France Inter. Au cœur de l'été, vous faites peut-être partie de celles et ceux qui font une croix sur les petites robes ou sur les shorts, car ces tenues estivales, a priori agréables, sont pour certains et certaines, un cauchemar, source de brûlures et d'irritation de la peau au niveau des cuisses. D'où cette offensive de 2 trentenaires parisiennes qui envisagent de commercialiser l'an prochain un stick pour prévenir ces maux à l'entrejambe dus au frottement. De quoi sauver l'été de pas mal de femmes et aussi d'hommes. Le reportage de Rémi Brancato.
Chaque été, c'est la même rengaine. D'abord le bonheur de ressortir les robes, les shorts, les jupes. Et quelques heures après, la même galère qui recommence pour Célia.
La friction de la peau entre les cuisses avec la chaleur et la transpiration, se met à brûler et devient très vite douloureux et force souvent les gens à marcher en pingouin ou en canard dans la rue. C'est un jour où je suis arrivée comme ça qu'on a découvert, Chloé et moi, qu'on avait toutes les deux ce même souci.
Chloé et Célia, collègues dans une entreprise de médias, se confient donc à la machine à café sur ce petit handicap.
Inconsciemment, j'arrêtais d'acheter des robes ou des shorts pour justement ne pas avoir ce souci de cuisses qui se touchent.
Un problème honteux, mais répandu.
C'est vraiment un problème morphologique par rapport à la courbe que peut avoir l'intérieur de la cuisse. Des femmes plus minces l'ont et des femmes minces le développent à la grossesse. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne touche pas que les femmes rondes.
On utilise des solutions de substitution, c'est-à-dire que des produits qui ne sont pas fait pour ça, pas pour cette zone. Des crèmes, souvent pour les pieds, et même du talc.
Voyant qu'aucune marque nous proposait une solution efficace, on s'est dit, il est temps, on le lance.
Le nom est tout trouvé, le stick pour protéger sa peau s'appellera Cuisse qui se touche. Objectif pour leur marque de cosmétiques Body Glory, accepter son corps tel qu'il est.
On refuse d'avoir honte de quoi que ce soit.
Le produit sera lancé l'an prochain, la marque voudrait ensuite s'attaquer aux boutons fessiers, à un vrai positionnement.
Allez, on attend la prochaine enquête de Rémi Brancato sur ces boutons fessiers. En attendant, reportage est sur franceinter.fr. Autre fléau de l'été, les bouchons, des gros week-ends de départ, et ça s'annonce déjà chargé pour aujourd'hui dans la France entière. Ce sera orange dans le sens des départs, et puis demain, rouge pour les départs et orange pour les retours. On retourne tout de suite à Tokyo, retrouver Jérôme Val qui suit pour nous la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça y est Jérôme, l'empereur japonais a ouvert les Jeux, il est sur le point de le faire peut-être ?
Oui, il est arrivé en tout cas au stade de l'empereur Naruhito qui est arrivé dans la tribune aux côtés du président du CIO Thomas Barr. Et là, c'est juste l'hymne japonais qui a été chanté par la chanteuse Misia qui est une star ici et qui a interprété cet hymne japonais au moment où on hissait le drapeau derrière le stade. Alors vous savez, c'est une cérémonie assez solennelle, assez longue. Il va y avoir encore plusieurs tableaux pour mettre en avant la culture japonaise. Puis le défilé des 206 délégations qui vont entrer dans le stade chacune. Les unes après les autres, les Français s'étant en avant-dernière position, il y aura les Japonais derrière et puis il y aura le moment tant attendu de l'allumage, de l'embrasage de la vasque qui est devant nous, qui symbolise le mont Fuji et qui va s'embraser un peu aux alentours de 16h après cette cérémonie qui lancera définitivement cette Olympiade ici à Tokyo.
Jérôme Val à Tokyo pour France Inter, on vous retrouve à 14h et tout l'après-midi pour nous faire vivre cette cérémonie d'ouverture. La météo
avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et bonjour Sébastien, Léas, Sébastien, c'est
bonjour
orageux.
Hélène, bonjour,
bonjour, c'est orageux en Bretagne, plutôt ensoleillé ailleurs.
Oui, de gros orages éclatent déjà en Bretagne et ces orages seront localement forts et pourront apporter des cumuls de pluie importants. Deux violentes rafales de vent et de la grêle sont aussi à craindre. Et puis d'ici la fin d'après-midi, ces averses orageuses vont se décaler vers la Normandie puis les Hauts-de-France cette nuit. Avant l'arrivée de ces orages, le ciel sera simplement voilé et le soleil sera omniprésent. C'est d'ailleurs un soleil voilé qui régnera sur la quasi-totalité du pays cet après-midi. Les nuages bas s'imposant sur la façade atlantique. Les températures, elles, resteront chaudes de 25 à 36 degrés en général, jusqu'à 38 degrés à Albi. Mais une nouvelle vague orageuse va se développer ce soir en Auvergne sur le Limousin et le Lot jusqu'en soirée. Ces orages gagneront également la Bourgogne puis la Champagne et la Lorraine. Ensuite, Météo France a d'ailleurs placé 15 départements en vigilance orange.
Sébastien Léas de Météo France.